Vous êtes bien sûr libre. Une série d'émissions proposées par le collectif At-Tariq. Le principe est simple, on prend un ou plusieurs livres et on en discute librement en essayant d'apporter des éléments de critique politique. Alors n'hésitez pas à aller faire un tour sur notre site collectif-at-tariq.net. Au menu, vous y trouverez des thématiques comme la justice sociale dans le Coran, la théologie de la libération, que ce soit en islam ou dans les autres monothéismes, et la place des croyants dans la lutte révolutionnaire. Aujourd'hui, nous commentons le best-seller de Sébastien Boller intitulé Le bug humain. Bonne écoute à vous.
Et ses recherches, il les met finalement au service d'une cause. La cause écologique pour laquelle il milite, hein, clairement.
D'accord.
Il va prendre l'exemple de. Il y a recherche, donc il y a le sexe, il y a quasiment les 7 péchés capitaux, d'ailleurs il en parle. Ouais. Et il nous dit donc bon, le sexe, la nourriture, et puis notamment la recherche de pouvoir.
Ouais.
Et là quand même, je veux dire, j'ai pas fait Polytechnique, hein, mais il faut lire quand même Monsieur Boller. Hein. Et il faut lire des choses en anthropologie. Alors là, je défends encore le projet d'anthropologie anarchiste, mais il semble quand même que les groupes humains ne soient pas tant que ça portés sur la domination des individus les uns sur les autres.
On pourrait même mentionner Ibn Khaldoun. Là-dessus, sur la naissance, le développement et puis le déclin des civilisations, il en fait une loi historique, et c'est vrai que quand on regarde, beaucoup de civilisations en tout cas sont passées par ces pas de voie.
Alors bienvenue pour ce nouvel enregistrement de notre série de podcasts de revue, donc revue de littérature commentée. Et aujourd'hui, on vous propose une discussion autour du bug humain de Sébastien Boller, qui est un best-seller. Et on a pensé, en tout cas avec l'équipe, là, qu'il y avait beaucoup de sujets à accrocher. Non pas forcément que le livre en soi soit pertinent pour aborder un tas de sujets, mais disons qu'il est, disons par effet de miroir, il renvoie quand même à beaucoup de sujets intéressants et d'objections qu'on peut lui apporter, notamment quand on a un peu de bagage politique. Voilà. Et puis je vais laisser peut-être Saber, du coup, présenter peut-être le bouquin et puis le bonhomme, quoi.
Ouais. Présenter le bonhomme, c'est Sébastien Boller, hein, un neuroscientifique qui s'intéresse dans ce livre au fonctionnement du cerveau humain. Et donc, en fait, le sous-titre du titre du livre, pardon, c'est « Pourquoi notre cerveau nous pousse à détruire la planète et comment l'en empêcher ?» Alors, presque tout est dit dans le titre. Donc ça va vraiment être le sujet de recherche de l'auteur. C'est vraiment essayer d'abord, dans un premier temps, de comprendre le fonctionnement du cerveau humain, ce à quoi il nous pousse finalement, et ensuite rattacher ce fonctionnement du cerveau aux problématiques actuelles écologiques. Voilà, ça c'est vraiment dans les grandes lignes. Ensuite, là je pense que dans la discussion, ce qui peut être intéressant d'abord, c'est de présenter peut-être sa méthode et puis aussi sa thèse, puisque c'est un essai. Et pour comprendre, je pense, un auteur qui prétend présenter un essai, en théorie on devrait pouvoir dégager de son essai donc la méthode qu'il utilise, ainsi que la thèse principale de son livre.
Et alors, qu'est-ce que tu ressens, toi, de... Alors, d'abord, le programme du bonhomme, c'était quoi? Alors, on peut se contenter de regarder la présentation qui est faite dans le livre, d'ailleurs. Hein, sur ce... Alors, on nous dit que Sébastien Boller Et un ancien élève de Polytechnique, ça, tu l'as mentionné.
Ouais.
Et en fait, il dirige quand même cerveau et psycho, quoi. Et alors, qu'est-ce que c'est que sa méthode disons, alors, par contre, on ne sait pas est-ce qu'il est scientifique. Hein. Il est spécialiste, parce que spécialiste en neurobiologie, je sais pas ce que ça veut dire. Est-ce qu'il est juste journaliste, chroniqueur, conférencier, écrivain, c'est bien, hein, je veux dire, il n'y a pas de problème, mais...
Oui.
C'est... D'où il vient et qu'est-ce qui, à ton avis, quel a priori on peut avoir sur le bonhomme?
Bah, l'a priori, c'est comme je disais, peut-être là en aparté, c'est que je pense que c'est vraiment un neuroscientifique qui a fait un tas de recherches dans son domaine de prédilection. Donc, en fait, on pourrait dire que c'est vraiment la biologie au sens général du terme, les sciences de la vie, et ces recherches, il les met finalement au service d'une cause. La cause écologique pour laquelle en fait il milite, hein, clairement.
D'accord.
Donc c'est
donc ouais, on va dire que c'est un genre d'Aurélien Barreau de la neuropsycho, quoi.
Ouais.
Ok.
Ouais, voilà. D'accord. Voilà.
Ok, c'est intéressant.
Voilà. Voilà, donc là déjà on a dès le départ, hein, science et politique qui s'entremêlent, hein.
Ouais, après il faut interroger le politique pour le coup là. Mais alors, quelle est la méthode de Boller? Qu'est-ce qu'il propose comme regard pour traiter? Alors, c'est le cœur du. Parce que si on regarde par exemple le sous-titre, c'est pourquoi notre cerveau nous pousse à détruire la planète et comment l'en empêcher. Donc, effectivement, c'est la thématique, c'est la destruction de la planète, l'écocide, comme dirait notre ami Lordon. D'ailleurs, il n'y a pas. Je crois qu'il n'y a aucune occurrence. Non, ça, on en parlera dans la deuxième partie de l'émission, parce que, en fait, on va consacrer une première émission, en fait, à la première moitié du livre, où il pose sa méthodologie, disons, plus ou moins honnêtement. Et dans la deuxième partie, des solutions éventuelles. Et des contradictions que lui, que Sébastien Boller, en tout cas, nous présente. Il me semble, pour avoir terminé difficilement le livre qui est facile à lire, qu'il n'y a jamais le mot capitaliste qui est prononcé.
Ah non,
peut-être que j'ai fait une erreur, mais je ne me souviens pas d'une seule occurrence du mot capitaliste, hein, ou du capitalisme. Il y a humanisme libéral de mémoire, etc. Moi, je fais peut-être une erreur, donc j'invite les gens à regarder. Alors pour reprendre, donc on va s'attacher à regarder quelle méthode il nous propose et quelles sont éventuellement les critiques qu'on peut faire vis-à-vis des résultats qui sont présentés. Voilà, on va se consacrer là-dessus sur ce premier enregistrement et puis on viendra sur les solutions et sur toute une tradition de philosophie politique qui semble écartée assez rapidement. Et ça, on verra ça dans une deuxième partie avec le camarade Antoine qui nous rejoindra pour cette émission consacrée donc aux solutions. Et alors, allons-y. Alors, quelle est la méthode et qu'est-ce qu'il nous propose comme résultat, semble-t-il, stupéfiant?
Ouais, la méthode, dire que c'est la biologie, les sciences de la vie, donc. Moi, j'ai un passage là que j'aimerais lire et qui, pour moi, résume un petit peu les choses. Il dit au tout début du livre, « Nous sommes emportés dans une fuite en avant de surconsommation, de surproduction, de surexploitation, de suralimentation, de surendettement et de surchauffe, parce qu'une partie de notre cerveau nous y pousse de manière automatique, sans que nous ayons actuellement les moyens de le freiner. » Tout n'est pas perdu parce que certaines parties de ce même cerveau ont la capacité de raisonner autrement. Mais elles sont en minorité et elles ont du mal à se faire entendre. Pour faire gagner cette minorité silencieuse, il faut d'abord connaître la puissance de ces forces qui œuvrent de manière souterraine. J'ai voulu ici détailler le fonctionnement des circuits neuronaux profonds qui nous conduisent à notre perte pour que toutes celles et ceux qui souhaitent, comme moi, un autre destin sachent à qui ils s'attaquent. Car il faut connaître son ennemi pour triompher, dit l'adage, c'est le problème, il s'agit de se connaître soi-même. Donc ouais, ce passage pour moi il est disons assez cordes. C'est-à-dire que tout va se passer, il y a une biologisation à outrance. Donc on pourrait dire que c'est il y a un biologisme chez Sébastien Boller, parce que tout se passe en fait dans le fonctionnement des circuits neuronaux. C'est-à-dire que là, je pense que tu pourras le détailler aussi peut-être mieux que moi, mais tout se passe en fait dans le striatum. Donc
alors c'est quoi le striatum? Il y a un joli dessin là, dans le livre pour nous expliquer les parties du cerveau concernées. Qu'est-ce que tu as compris toi là des phénomènes qui sont décrits vis-à-vis du striatum, je crois que par rapport à la récompense.
Ouais, voilà, c'est ça en fait, c'est que c'est une partie du cerveau qui lorsqu'elle est stimulée par finalement une source extérieure, ouais, envoie de la dopamine et reçoit en fait du plaisir.
Ouais.
Du plaisir. Et donc comme tu disais, tu le mentionnais, c'est le circuit de la récompense. Et en fait, à chaque fois que le cortex exécute finalement tout ce qui est au programme de la survie humaine, donc manger, boire, dormir, se reproduire, etc., en retour, le cerveau reçoit de la dopamine et du plaisir. Donc finalement, l'être humain est, en tout cas le cerveau humain est enfermé dans cette boucle sans fin pour voleur. Et on pourrait dire que c'est ce fonctionnement-là finalement qui nous pousse tout simplement à tous les méfaits qu'il détaille et que j'ai mentionné. Donc là où il dit en fait, nous sommes emportés dans une fuite en avant de surconsommation, de surproduction, de surexploitation, de suralimentation, de surendettement et de surchauffe. Donc c'est vraiment les circuits neuronaux, le fonctionnement du circuit du cerveau humain qui est responsable de ces dégâts.
Ouais. Voilà. D'accord. Donc en gros, il va expliquer un certain nombre de comportements fondamentaux chez les adultes.
Voilà.
À partir des circuits de la récompense dans le cerveau, si on voulait faire simple. Et disons pourquoi pas, why not? Hein, effectivement, il y a des circuits de la récompense. Il n'y a pas de magie dans les comportements humains individuels, on est de cause-conséquence. Je veux dire, voilà, il y a de la chimie, on est de la biochimie, les cerveaux réagissent, et puis on peut dégager des régularités. Ça semble aller de soi, hein, qu'étudier le cerveau, ça permet de dégager un certain nombre de régularités scientifiques sur le fonctionnement des individus éventuellement, peut-être les collectifs beaucoup moins pour le coup. Mais au moins à l'échelle d'un individu, j'imagine que. Je vais me souvenir par exemple d'une expérience où il y avait quelqu'un qui avait eu je crois que c'est l'hippocampe qui relie les deux hémisphères du cerveau. Et il y avait, ça fait complètement coupé, il y avait une incapacité à envoyer, je sais plus quelle capacité en particulier, mais quand on dégrade un certain nombre de zones dans le cerveau, on sait qu'à l'échelle d'un individu, en tout cas, il y a des choses qui se passent. Cela dit, on peut être amené à prendre les conséquences et la manière dont c'est utilisé tous ces résultats avec énormément de pincettes. Alors, je ne sais pas si tu es d'accord, mais par exemple, ils identifient des grandes tensions primaires, des grands fonctionnements primaires qui sont effectivement le sexe,
ouais,
ce qu'il appelle la
parole. Voilà, gérer, se reproduire.
Ouais.
Et effectivement, tout ça fait partie en fait du programme de la survie, de la reproduction humaine. C'est nécessaire. Ces comportements sont nécessaires à la survie humaine. Ils sont même en fait depuis l'origine, hein, présent.
Oui.
Mais en fait, j'ai l'impression aussi qu'il finalement, il identifie aussi ses comportements à une forme de d'instinct de. C'est l'instinct de survie, mais c'est aussi un instinct de domination.
Ouais.
Et c'est ce qui en fait nous pousse à nous cette fuite en avant, ça nous pousse à nous projeter comme ça sans cesse et de voir sans cesse s'élever, dominer, écraser les autres et finalement en fait même détruire la planète.
Ouais. Alors il y a mettons alors par exemple sur la question du sexe, mettons. Alors il va quand même prendre sur des expériences. Pour les gens qui sont habitués à lire des papiers scientifiques, des articles scientifiques, au premier abord, on peut être impressionné par le nombre d'heures d'articles qu'il va citer en fin de l'ouvrage, pas en note de bas de page pour le coup, mais on peut se dire, bah voilà, mince, ça a l'air
sérieux.
Sauf que il va prendre un certain nombre d'expériences sur des rats, sur des macaques. Hein.
Oui.
Et là, l'idée, c'est pas de dire que bêtement, non. Nous ne sommes pas des rats et fermer le banc comme ça, c'est que pour le coup il fait des raccourcis terribles, quoi. Je veux dire, par rapport à tous ses résultats en euros sur des rats, sur des macaques ou que sais-je, il va faire un certain nombre de raccourcis de conclusions sur les êtres humains. Il va dire par exemple comme les rats et comme les macaques. Là je me permets de manière peut-être zététicienne, de dire peut-être y a les mollos sur les raccourcis possibles, mais ok, mettons, d'accord.
Non, mais ce que tu veux dire, les raccourcis possibles, c'est que, ben, quand même, moi je pense qu'on pourrait, comme tu disais là, juste au départ, on pourrait tout de suite fermer la porte en disant, ben non, on n'est pas des animaux. L'être humain, on n'est pas des animaux. L'être humain, en tout cas, se distingue des animaux. Et je pense que même. Et ce qui est aussi totalement absent de son livre, il n'en parle pas du tout, c'est la faculté rationnelle.
Alors, alors, il en parle à la fin, mais d'une manière assez surprenante. Voilà. Je m'attendais à rien, mais j'étais quand même déçu. Voilà. Sur la manière dont il va convoquer la conscience humaine ou l'intellect ou que sais-je. Alors, ok, prenons un passage pour essayer de voir, par exemple. Alors, on va passer sur le sexe, parce que il y a des fadaises qui sont racontées, mais mettons, je vais par exemple prendre dans la petite partie qui s'appelle « Programmer pour le sexe », hein, une vaste programme. Donc là, il nous prend une petite étude, et en fait, on peut dérouler ce schéma pour quasiment toutes les parties. Hein, il va nous prendre des résultats d'IRM ou j'en sais rien. Et là, il va donner un certain nombre de conclusions. Par exemple, apparemment, la neuro révolutionne le monde et, par exemple, elle nous dit sur le sexe, mais tout a commencé à changer il y a une trentaine d'années avec l'irruption de l'image dans nos vies de tous les jours. En quelques décennies, la télévision, les appareils photo, Internet et les smartphones ont envahi nos existences. Cette société technologique ultra sophistiquée a réalisé un petit miracle pour les striatums assoiffés de sexe. Elle a fait entrer dans toutes les maisons un ou plusieurs écrans sur lesquels il est possible de visionner des vidéos présentant toutes sortes de corps, de rêves dénudés, engagés ou non dans des rapports sexuels explicites ou à demi-voilés, selon les goûts, et renouvelables à l'infini. On peut emporter sa dose de sexe n'importe où, le sexe, dès cet instant, n'est plus réservé à quelques chanceux qui auraient gagné la course de l'évolution. Tout le monde aujourd'hui peut gaver son noyau accumbens, donc une partie du cerveau, d'images incitatives sans autre limite que celle du temps disponible, et c'est pas tout à fait ça que je voulais. C'était juste avant, pardon, et c'était sur sur le nombre de, alors bon, je l'ai plus, mais alors il va prendre par exemple il va nous dire des choses comme par exemple que ça fait voilà ça fait des centaines de milliers d'années que les êtres humains fonctionnent comme ça. Alors, j'ai plus le passage ici. J'aurais dû faire plus attention à mes notes. Mais en fait, il fait la même chose pour absolument toutes les caractéristiques qu'il va citer. Sur la question de pouvoir, moi qui m'intéresse pour le coup beaucoup plus, là, On va nous dire, il va nous dire par exemple, il va prendre l'exemple de. Donc il y a recherche, donc il y a le sexe, il y a quasiment les 7 péchés capitaux, d'ailleurs il en parle. Ouais. Et il nous dit donc bon, le sexe, la nourriture, et puis notamment la recherche de pouvoir.
Ouais.
Et là quand même, je veux dire, j'ai pas fait polytechnique, je dirige pas neuropsycho, j'ai pas écrit de bouquin encore. Mais il faut lire quand même Monsieur Boller. Hein. Et il faut lire des choses en anthropologie. Parce que pour éviter de dire des phrases comme pendant des centaines de milliers d'années, les hommes ont procédé ainsi. Parce que là, en plus, il y a plein d'écoles en anthropologie, pour le coup, alors qu'ils vont se bagarrer sur des détails ou sur la manière d'interpréter les choses, mais quand même, on peut pas dire des choses sur les sociétés humaines. Et faire comme si ça a toujours été le cas, parce que finalement la parenthèse capitaliste et des sociétés étatiques en opposition aux sociétés pré-étatiques, on aura l'occasion d'y revenir dans un ouvrage dont on aimerait bien discuter, c'est Against the Grain en anglais, et c'est
en français contre l'État.
Non, c'est pas. Non, pour le coup, ça c'est Pierre Classe, mais il faut le lire.
Ouais.
C'est Against the Grain, c'est. Mince, je l'ai plus en français.
Non.
Oui, c'est contre le grain, mais alors j'ai oublié le nom. Ça fait mec pédant qu'il dit en anglais. C'est même pas grave. J'ai retenu le nom en anglais, je sais plus pourquoi. En tout cas, il y a tout un courant en anthropologie et. Et c'est aussi un des objectifs de David Graeber dans son entreprise sur l'anthropologie anarchiste. C'est que quand on regarde un tas de documents, d'articles et d'études en anthropologie, on se rend compte que c'est beaucoup plus complexe que ça. Hein. On ne peut pas considérer comme ça et balayer parfois 30-40 000 ans de vie de société humaine qui a été pré-étatique. Et dire, ben voilà, les êtres humains ont toujours cherché à dominer les autres et à. Tu parlais de Pierre Classe dans la société contre l'État.
Ouais.
Là, pour le coup, j'invite Sébastien Boller, qui ne nous écoutera sûrement pas, hein, on est trop modeste, mais à lire Pierre Classe, en fait. Et à regarder qu'est-ce que c'est qu'un tas de sociétés amérindiennes d'Amérique, hein, et où, en fait, les rapports que lui semble.
Inscrit en fait dans la nature, hein.
Ouais, comme étant
naturel et puis en tout temps, de tout lieu universel,
ouais.
Et effectivement, ouais, dans ce niveau là c'était contre l'État, on voit que ça rapporte de domination,
ouais.
En tout cas les peuplades amérindiennes et sont totalement absentes, hein.
Alors quand on lit Pierre Classe, c'est assez fort, c'est à dire que on découvre notamment par exemple des chefs qui sont pas des chefs, voilà. C'est-à-dire qu'a priori, même dans certaines là où c'est des exceptions pour le coup, où on a des chefs identifiés, c'est-à-dire dans les autres sociétés où en fait où il n'y a pas ces histoires de les chefs, on l'entend nous avec les rapports de pouvoir qu'on connaît nous, et ben même le chef dans certaines, alors est-ce que c'est les Guaraki, j'ai oublié. Mais on a des chefs dénudés, on a des chefs par exemple qu'on dépouille, c'est-à-dire qu'ils sont au service de la communauté, et en fait c'est le mec le plus pauvre de la bande en gros, et à qui on demande s'il a pas, je sais pas, des fruits et quelque chose, des fruits de la chasse, en fait, c'est-à-dire des chefs dénués de rapport de pouvoir vis-à-vis des autres, des chefs, ouais. Incapables de et disons avec les seuls attributs que la parole aisée et éventuellement du charisme.
Oui, une fonction symbolique.
Ouais. Et là, on trouve évidemment des femmes aussi. Donc, je ne sais pas ce que fait de tout ça Sébastien Boller, parce que ça, c'est des sociétés potentiellement qui sont stables depuis avant l'Antiquité primaire, quoi. Je veux dire, c'est avant les Étrusques et l'Égypte ancienne, quoi. Je ne sais pas ce qu'il ferait des résultats d'anthropologie. Sur la question des rapports de pouvoir, par exemple. Alors, il nous dit, le besoin de statut social est ancré, donc c'est page 97, dans nos neurones. Mmh. Le besoin de statut social, je répète, est ancré dans nos neurones. C'est le cas depuis bien trop longtemps. Je ne sais pas depuis combien de temps, mais OK. Pour que l'on puisse espérer que cela s'arrête de sitôt. Notre instinct de primate... Alors, lui, il remonte carrément au primate. Hein. Et là, pour le coup, je l'invite encore à lire. Mais bon, passons. Notre instinct de primate habitué à mesurer leur existence sur une échelle de prestige, de hiérarchie, de reconnaissance est trop tenace pour qu'il faille compter sur son extinction naturelle. Et là, il nous donne des exemples, par exemple, de macaques. Voilà. Et alors, je suis tombé fortuitement sur un reportage qui était passionnant sur les grands primates sur Arte. Ouais. En fait, on découvre qu'au sein, d'espèces très proches, on va parler des bonobos et des chimpanzés, et ben, il va y avoir des rapports de pouvoir complètement différents. Et je découvrais par exemple que chez les chimpanzés, on a des rapports hiérarchiques. Voilà. Les rapports hiérarchiques, c'est très structuré autour de ce qu'on appellerait nous des chefs à questionner, parce qu'en fait, qu'est-ce que c'est qu'être un chef chez un chimpanzé là, à mon avis, il faudrait faire gaffe, quoi. Mais voilà, on a l'impression quand même qu'il y ait des individus qui ont l'ascendant sur les autres et qui ont le droit de s'accoupler effectivement avec les femelles, etc. Ok. Sauf qu'on se rend compte que chez les bonobos, c'est pas le cas. Et on se rend compte que chez un tas de grands primates d'espèces proches ou éloignées, ça peut varier. On découvre également aussi que... il y a des différences culturelles, et là c'est vrai, c'est vraiment des différences culturelles pour le coup, entre des groupes d'une même espèce, par exemple de chimpanzés. J'ai découvert, on donnera la référence, mais dans ces reportages-là sur Arte, que les chimpanzés sont capables de se faire la guerre dans des groupes qui sont de la même espèce. Et on a des variations entre les groupes qui sont assez étonnantes. Par exemple, il y a des tabous dans certains groupes de chimpanzés, ouais, d'une même forêt, hein. Et chez d'autres, des tabous opposés. Par exemple, un groupe va manger des termites et l'autre, chez l'autre, c'est interdit. C'est interdit au sens où vraiment, ils y touchent pas, quoi, comme si c'était mauvais, quoi. Alors on pourrait y croire qu'il y a un instinct biologique qui ferait qu'ils fuient, je sais pas moi, c'est toxique et c'est pas bon pour eux, mais non, non. Et c'est complètement arbitraire et c'est culturel. Alors... Ce que fait Sébastien Boller là, c'est qu'il va prendre les primates et il va nous dire chez les primates, il fait une grosse catégorie. Ouais. Il fait des primates aux êtres humains, globalement, le besoin d'hiérarchie est inscrit. En fait, c'est comme ça, quoi.
Ce qu'il fait pour les êtres humains, il le fait finalement aussi pour les animaux. C'est-à-dire que, oui, voilà, mais il réduit complètement de la même manière qu'il réduit les rapports entre les êtres humains à simplement des rapports déterminés par le sexe, le sexe, la violence, la reproduction, et puis le fait de subsister. Il va faire de la même manière pour les animaux, en fait. Et c'est ce que tu disais là à l'instant, c'est que en fait chez les animaux, finalement, on voit que c'est beaucoup, même chez les animaux, c'est beaucoup plus complexe que ça, et il y a quand même des différences importante où on retrouve que finalement les rapports ils sont plus compliqués, ils sont pas simplement déterminés par la survie, la domination, le chimpanzé qui est en haut de la hiérarchie et qui va finalement s'attribuer toutes les femelles.
Ouais, parce que là il va prendre le cas des macaques. Enfin, je pose la question. Ok, très bien. Quel groupe de macaques t'as pris? Et les macaques, est-ce que c'est quand même. Est-ce que c'est pas un cas particulier? Mettons qu'on trouve quand même que dans l'espèce macaque, globalement, c'est plutôt bien doué pour se doter de chefs qui poutrent les autres. Ok, mettons dans quelle mesure tu rentres ça dans ton biais de l'humanité, se chercher des chefs sans arrêt? Je sais pas. Alors, peut-être qu'il y a un inconscient là qu'il faudrait questionner chez Sébastien Boller là. Parce que par ailleurs, ce qu'on trouve quand même en anthropologie, pour renforcer le clou là-dessus, ce qu'on trouve en anthropologie, ça a l'air d'aller dans le sens contraire. Alors là, je défends encore le projet d'anthropologie anarchiste, mais il semble quand même que les groupes humains soient pas tant que ça pendant des années, pendant le néolithique. Tant que ça portait sur la domination des individus les uns sur les autres. Il y a d'autres bêtises de cet ordre-là, il me semble. Je suis désolé d'employer des mots un peu durs, mais il fait comme si, notamment, ça on découvre encore ça chez Pierre Clastre, que les êtres humains ont eu des périodes de disette intense et que les chasseurs-cueilleurs globalement crevaient la dalle, et que alors que bah non, c'est pas ce qu'on trouve dans les résultats. On trouve en fait des sociétés plutôt opulentes de chasseurs-cueilleurs qui mangeaient très bien et qui n'avaient pas ce mythe là de la fondation de cité-état qui aurait permis aux êtres humains de vivre mieux et avec opulence. C'est un gros point d'interrogation aujourd'hui hein, chez les anthropologues. C'est les anthropologues. Donc, je sais pas si tu as...
Ouais, non, mais je pense que tu notes, c'est important, mais c'est vrai que moi, je suis resté plutôt à un niveau plus général, et ce qui pose vraiment question, encore une fois, c'est un déterminisme chez lui, hein. Déterminisme biologique total, et c'est ça qui pose vraiment qui est pour moi le point le plus
c'est un peu une théorie du ouais. tout du tout par les neurones,
c'est ça.
Une théorie du tout, il a trouvé voilà. Un truc, et le problème c'est que mon garçon c'est pas si innovateur que ça, mais ça on spoil pas, ça sera pour la deuxième émission, mais tout ça c'est quand même un peu du réchauffé quoi.
Ouais, du réchauffé, et puis ça s'inscrit aussi dans une critique aussi qui est faite aujourd'hui, notamment des réseaux sociaux, où on dit aujourd'hui beaucoup que les utilisateurs aussi sont enfermés dans ce circuit de la récompense. Et je pense que c'est, encore une fois, ouais, c'est si tu veux une thèse qui est accessible, que tout le monde peut comprendre et qui elle donne l'impression de donner des réponses, en fait, de ouais. donner des réponses aux dégâts qu'on voit devant nous, aux méfaits des réseaux sociaux, aux méfaits de l'écocide, au rapport de domination en société et au comportement en fait des êtres humains voilà, en société.
Je prends un passage là, de la partie ouais. suivie de chef. Hein. Alors dès que je vois chef, en général mon cerveau s'allume. Hein. Et donc voilà, donc notre instinct primate habitué à mesurer leur existence sur une échelle de prestige. Je veux dire, non, on ne peut pas former des choses comme ça, monsieur Boller. Notre instinct de primate habitué à mesurer leur existence sur une échelle de prestige, de hiérarchie et de reconnaissance est trop tenace pour qu'il faille compter sur son extinction naturelle. Récemment, des neuroscientifiques de l'université d'Oxford ont posé la question centrale. Le besoin de statut social, sur lequel surfe une grande part des publicités aujourd'hui, quoi. Est-il, oui ou non, quelque chose de biologiquement ancré en nous, ou une disposition créée par les conditions matérielles de notre société de consommation ? La théorie de l'ancrage biologique suppose que nous aurions hérité de nos ancêtres primates des structures cérébrales profondes, comme le striatum, qui tendent à associer le rang social à certains attributs et signes visibles rendant visible ce statut. Les chercheurs ont donc voulu savoir si les singes, comme les macaques, pouvaient être sensibles à la publicité. Donc ils font l'expérience, et puis globalement, ok, ça marche aussi. Bah oui, mais entre les macaques, je vais pas répéter, mais non, parce que c'est pas parce que ça a marché avec éventuellement des macaques, et il faut interroger, pour le coup, je suis quasiment sûr que si on regardait l'article, on serait surpris, mais bon, ok, et il nous sort un truc sur des grosses catégories comme ça, et des résultats qui va complètement extrapoler à mort. Tant que c'est pas très rigoureux, monsieur Boller. Avec tout le respect que je vous dois, évidemment. Et puis après, il y a des fadaises sur la bénédiction du chômage. Le chômage qui est considéré comme ne rien faire, apparemment. Très bien. Pour le coup, j'ai été au chômage. Je connais beaucoup de gens au chômage. J'ai rarement vu quelqu'un ne rien faire au chômage. Alors, je sais pas.
Bah oui, j'avais déjà fait lui, mais. C'est okay. Ça, c'est que le chômage, ça va aussi dans ce sens-là. Hein. La paresse qui est aussi inscrite dans notre fonction, dans les circuits neuronaux, dans le fonctionnement du cerveau. Ouais. Et bien, et voilà, on peut expliquer aujourd'hui pourquoi on a un taux de chômage qui est aussi important et pourquoi un individu face un travail pénible ou au chômage, je choisira toujours de rester au chômage.
Ouais. Alors oui, alors je suis quand même un peu de mauvaise foi, c'est qu'il en fait, comme tu dis, aussi une explication de notamment du développement technologique. En gros, il appelle ça les neurones de la paresse. On fait toujours quand même globalement pour essayer de moins faire d'efforts possible. Ce qui s'entend, hein, mais c'est peut-être pas mal de rien faire. Des efforts, limiter les efforts pénibles et ce qui peut abîmer notre corps et nous mettre en danger, why not? Ce qui n'est pas la définition de ne rien faire, comme ce que font notamment les bourgeois, qui pour le coup, eux, sont de vrais oisifs.
Pour vraiment rien.
Ouais.
Et les rentiers, notamment. Hein.
Ouais. Voilà à peu près. On approche globalement de la fin de la première partie. Mais voilà, on pourrait prendre globalement la critique qu'on a fait là, par exemple, juste sur les rapports de pouvoir, là, brièvement comme ça, hein, sans trop aller dans les détails, sans trop. Et bien, pour la faire, pour apprécier absolument tous les résultats qu'il nous présente. Et puis après, on nous sert des banalités sur Internet et les réseaux sociaux. Bon, ok, très bien. Et puis, une autre partie, par exemple, sur les êtres humains sont joueurs. Hein, le joueur de Dostoïevski, on aime le risque, hein, on aime bien se faire peur, se jouer à se faire peur.
Ouais. Ouais. Je sais ce qu'on va dire, ouais. Mais ils sont cons ces gosses. C'est con à dire, mais je m'attache aux causes et ouais. Pas aux conséquences. J'ai des besoins et j'ai besoin d'y subvenir. Ça me vénère, donc je fais des choses quitte à voir les stupes venir. Ah ouais. C'est intriguant, je voulais devenir avocat et pas un brigand. Mais on fait pas ce qu'on veut. Ouais, ça c'est des choses que j'ai appris grand. Dire que petit j'écoutais les grands dire que la prison c'est comme des vitamines et que ça fait grandir.
Ah bon?
Ouais. Et grand j'allais le devenir, c'est ça que je voulais, donc j'ai insisté.
Allez, je peux venir,
et c'est là que je m'en vais.
Ouais, et c'est là que je m'en veux.
Car je te jure que je suis pas mauvais, j'étais juste un petit morveux, un peu comme toi frère. Vu que la vie m'a déçu comme une coupe ratée chez le coiffeur. Maintenant je ne sais plus quoi faire.
Ils m'ont pris ma liberté.
C'est dur d'être un homme sans, c'est un peu comme la puberté.
Ouais. Ouais,
ça il faut plus que ça se reproduise.
Mais j'ai pas la pilule.
J'ai pas le remède mon frère, mais si tu l'as vas-y
dilule
dans toutes les eaux de la ville.
Ouais.
Et si tu vois un petit qui déconne comme moi j'ai déconné, vas-y
dis-le.
Je sais ce qu'on va dire, mais ils sont cons ces gosses. C'est con à dire, mais je regarde la cause et pas les conséquences.
Ouais, c'est intriguant, je voulais devenir avocat et pas un brigand. Mais on fait pas ce qu'on veut et ça c'est des choses que j'ai appris grand.
Je sais ce qu'on va dire, mais ils sont cons ces gosses, c'est con à dire, mais je regarde la cause et pas les conséquences.
Ouais, c'est intriguant, je voulais devenir avocat et pas un brigand.
Mais on fait pas ce qu'on veut et ça c'est des choses que j'ai appris grand. Que j'ai appris grand. Je voulais pas devenir un brigand.
Et là c'est vrai quand même, ces passages là, disons, allez, comment dire, je sais pas trop quoi en faire. Mais je repasse à des passages du Coran, notamment sur les peuples qui s'autodétruisent. Pas pour en faire un... voilà. Pas celui pour dire le Coran, on a déjà parlé, c'est pas la question, hein. Mais simplement c'est vrai qu'il y a quand même ce truc dans l'humanité, sa capacité à se foutre dans la merde, et que lui essaie de prendre, il me semble, par le mauvais bout, mais à mon avis il tient quand même une bonne idée, de se dire mais mince, mais comment on peut autant être stupide, c'est-à-dire comment on peut se scier la branche sur laquelle on est, et comment on peut détruire notre environnement, quoi. Ça a l'air terrible, comme les animaux font pas ça, pourquoi est-ce qu'on est capable de détruire notre d'abord nous-mêmes et l'environnement, comment ce truc-là est possible? Moi, la question à mon avis elle est intéressante, en vrai.
Bah ouais, puis surtout c'est vrai que on pourrait même mentionner Ibn Khaldoun qui travaille là-dessus sur la naissance, le développement et puis le déclin des civilisations. Il en fait une loi historique. Et c'est vrai que quand on regarde, beaucoup de civilisations en tout cas sont passées par ces passages-là. Donc, Ouais, la crise écologique actuelle, générale, qu'on traverse, elle peut être inclue dans cette réflexion en disant, on a eu une phase de naissance puis développement avec le capitalisme triomphant, et aujourd'hui, on entame une phase effectivement de déclin avec toute une série de choses qu'on pourrait mentionner, la raréfaction des ressources naturelles, le dérèglement climatique, et puis tout un tas de choses qu'on pourrait mentionner.
Je n'arrive pas quand même à dire, il faut quand même lire ce passage qui est croustillant là. Atteindre le haut de la pyramide. Allez, c'est le dernier passage pour moi sur les rapports de pouvoir, quand même, pour se rendre compte du truc. Quoi. L'origine des hiérarchies. Lorsque les premiers Homo sapiens écumaient le nord-est de l'Afrique et s'apprêtaient à migrer par vagues successives vers le Moyen-Orient, l'Asie puis l'Europe, ils ne formaient que des groupes de quelques dizaines d'individus vivant de chasse et de cueillette. Maniant la hache de pierre ou la sagaie, ils n'avaient ni les canines d'un lion, ni la force d'un buffle, ni son estomac capable de digérer l'herbe. Ils n'étaient guère nombreux et n'avaient pas de véritable impact sur leur environnement. Si les extraterrestres, bien attentionnés que nous imaginons depuis le début de ce livre, nous observaient dès la première heure, ils n'auraient sans doute pas misé bien lourd sur cette espèce bipède balbutiante. Pourtant, les humains étaient organisés. Ils chassaient en groupe et parvenaient à capturer des proies de taille imposante grâce aux capacités de planification et de coordination de leur cerveau communicant. Les meilleurs chasseurs étaient récompensés pour leurs exploits personnels, leur talent technique, mais aussi leur capacité à coordonner l'action du groupe. Ces individus influents jouissaient en contrepartie de portions alimentaires plus importantes, de la déférence de leurs compagnons et l'attention des femmes. On sait aujourd'hui qu'ils se reproduisaient davantage et que le rang social que pouvait acquérir un individu se répercutait en termes de descendance. Et leur gène, d'un dominant, passait plus massivement à la génération suivante. Voilà. Et là, alors il est malin, c'est qu'il va prendre aussi pareil sur les chimpanzés. Sauf que Monsieur Boller, là encore, c'est pas possible. Et là, faut lire de l'anthropologie. Et il faut lire de l'étude des primates, quoi. Et il faut faire vachement attention à ce qu'on dit là-dessus, quoi. Et effectivement, moi, je te rejoins là pour le coup sur ta conclusion, hein, mais. On peut peut-être éventuellement conclure parce qu'en fait, je pense qu'on a fait le tour à peu près de ce qu'il a dit. La proposition de la première partie avant le bug humain, donc la première partie s'appelle. Première partie, donc dans la boîte noire du cerveau, d'accord. Et la fin, c'est lutter contre nous-mêmes. Alors est-ce que tu as des choses à dire là-dessus, éventuellement, sur la fin de la première partie?
Là, on est arrivé un peu au bout, mais. Ouais. Et globalement, je pense que aussi. Ce qu'on pourrait lui reprocher, c'est que vraiment il s'intéresse à la société actuelle, la société contemporaine, et il prend jamais de recul historique. Mis à part le fait de mentionner, comme tu disais, un peu des platitudes anthropologiques sur de tout temps, l'homme s'est toujours comporté de cette manière, toujours voulu dominer ses semblables, etc. À aucun moment il prend un certain recul, parce qu'on pourrait se poser la question, mais alors dans ces cas-là, si on prend un peu de recul, est-ce que la société française du 19e siècle, par exemple, est-ce que une grande majorité de la population vivait dans une extrême pauvreté, est-ce que eux aussi étaient dominés finalement par leur striatum?
Ouais.
On pourrait poser ces questions-là, et finalement, je ne pense pas. Donc, en fait, sa thèse, elle intervient dans un contexte bien particulier, une société qui est encore dans l'abondance. Mmh. Et ouais, non, c'est ça. Donc,
mais en fait, à bien y réfléchir, ça paraît pour moi complètement fou de vouloir tout expliquer avec le striatum. Je veux dire, il y a tellement de paramètres possibles.
Ouais.
Qu'en fait, au final, c'est vraiment ça. J'aurais le projet de sortir un bouquin comme ça, je me poserais la question, mais mince, quoi. Est-ce que je suis pas un peu dingue de tout mettre sur le dos du striatum et des circuits de la récompense? Je veux dire, vraiment, quoi. Je veux dire, j'hésiterais vachement à sortir un bouquin pareil, quoi. Juste pour paraître. Au moins qu'on me prenne au sérieux, quoi. Je veux dire, enfin, je sais pas, mais. Et à la fin de la première partie, il nous sort l'enfant surarmé, donc l'humanité est comparée à un enfant, une sorte d'enfant pourri gâté, quoi, qui sait pas ce qu'il fait, quoi.
Alors,
faut faire attention à ça. Hein. Je veux dire, alors il y a des travaux de Piaget intéressants sur le. Piaget commence ses travaux avec ce qu'on appelle le récapitulationnisme. Il fait un genre de récapitulationnisme. Et c'est la génétique, quelque chose, j'ai oublié le nom. Je rechercherai, mais en tout cas, il essaie en gros de comparer l'histoire de l'humanité à celui d'un enfant. C'est dur d'accéder à l'évolution de l'humanité dans l'ensemble. Alors il s'est dit, on va regarder l'enfant. Est-ce que l'enfant, globalement, passe par les grandes étapes qu'a eu l'humanité en termes de connaissances ? Avec une question qui a intéressé les sciences de l'éducation, la didactique, etc., la philosophie, c'est est-ce qu'un enfant doit passer par toutes les étapes qu'a connues l'humanité, je sais pas, l'invention de la roue, les maths, les éléments d'Euclide, Newton, etc. Et ben ça, c'est ça, on sait aujourd'hui que c'est pas, ça a été abandonné, mais en tout cas, ça a donné tous les travaux de Piaget qui ont donné une école assez prolifique et intéressante sur la psychologie du développement, etc. Et ça nourrit encore aujourd'hui énormément de recherches et avec des résultats pour le coup qu'on pourrait mettre en regard avec ce que nous raconte Sébastien Boller ici, quoi. Donc l'enfant gâté, quoi. Mmh. Est-ce que tu t'es
ça. Ouais.
Est-ce que ça t'évoque quelque chose, toi, ça?
Bah oui. oui, bah oui, l'enfant gâté, c'est le. C'est l'individu aujourd'hui, le membre de la classe moyenne d'aujourd'hui.
Ouais.
Tu vois, qui a en fait finalement et qui travaille, donc qui a aussi du loisir, donc qui a le loisir et l'argent pour pouvoir se consommer, se divertir.
Ouais. Et alors, je vais dire la dernière partie avant qu'on se quitte. Hein. Pour cette première partie de notre lecture critique, c'est la partie lutter contre nous-mêmes. Alors aujourd'hui, nous dit-il, la technologie confiée aux humains est comme une ogive nucléaire remise entre les mains d'un enfant. Le potentiel destructeur de cette arme lui est totalement inconnu, il veut s'en amuser. Il ne peut pas faire autrement. L'auteur d'un scénario humoristique imaginerait des conseillers politiques, sociaux, militaires ou économiques qui tenteraient d'instruire cet enfant capricieux. De le raisonner, mais leur voix ne porterait pas. Tout comme l'activité des neurones du cortex ne rebrousse pas chemin vers le striatum, il est impossible de faire modifier ses buts à cet enfant. Si nous voulions agir pour autre chose que la satisfaction de nos 5 grands renforceurs primaires, donc en gros nos 5 instincts primaires, disons quoi, il faudrait inventer un moyen de museler l'activité de notre striatum au moyen des efforts conscients de notre volonté et de notre raison, logés dans notre cortex. Certains s'y sont essayés. Bien des philosophes, de Socrate à Lucrèce ou Descartes, des religions et des courants spirituels s'y sont efforcés en prenant la tempérance, voire la contrition, parfois même la pénitence. Sans effet, ce n'est pas un livre sacré ou une doctrine qui peut lutter contre un système neuronal forgé à coups de centaines de millions d'années de survie, de douleur et de plaisir. Nous pourrions bien être dans une impasse. Alors, commentaire.
Il cite des philosophes, mais c'est pas des. Non, mais citer des philosophes, ces philosophes, il faut. Quand on cite des philosophes, il faut vraiment les lire et puis voir ce qu'ils disent exactement. Et le striatum qui s'est formé sur des millénaires, on pourrait dire que. bah, la faculté rationnelle qui normalement peut contrebalancer ses effets, elle est aussi elle est naturelle chez l'être humain.
Ouais.
Elle est naturelle. Donc non, ça.
Et j'aime bien quand même la capacité incroyable qu'il a de balayer des religions et des courants spirituels s'y sont efforcés. J'y ajouterai, mais peut-être qu'il faut. Mais ce sera des conseils de lecture qu'on donnera à Sébastien Bollard pour la prochaine fois. Qu'il faudra qu'il lise la tradition anarchiste, notamment. Qui s'est intéressé en fait à la rigueur individuelle, notamment dans les courants individualisme. Ça, on en reparlera. Ce qu'on appelle l'anarchisme individualiste, quoi. Je spoile pas trop. Mais non, hein. Il faut faire attention à ce qu'on dit, quoi. Sans effet à regarder, qu'est-ce qu'il appelle pour le coup système religieux ou philosophique là-dedans. Si on parle de religieux, si on parle de religion comme étant voilà des dogmes et des constructs, voilà disons le monopole hein, du discours religieux par les empires et puis voilà les religions d'empire, ok, très bien, mais à ce moment-là on parle plus de système là qui oriente les gens vers une éthique. On a juste du religieux au sens de la sociologie, quoi. La construction de du religieux, quoi. C'est Weber, je crois. Il faudra vérifier, mais... non. On peut pas dire que c'est sans effet. C'est pas vrai. Et même si on verra qu'il donnera des cas, notamment Mère Teresa, qui va analyser doctement, il se casse la gueule encore, hein. On verra ça la prochaine fois. Et on va laisser sur ce cliff en guerre. Sur ce cliff en G. Je vais te laisser la conclusion et puis on se dira la prochaine fois avec Antoine, le camarade Antoine, pour un trio d'enfer sur le bug humain et qu'est-ce qu'on peut faire, quoi qu'on fait. Voilà.
Très bien, mais écoute, vivement cette seconde partie, alors, pour vraiment entrer un peu plus loin dans ce livre de bonheur.
Allez, à la prochaine.
Personne n'aime les riches jusqu'à ce qu'ils deviennent. Ensuite ils planquent leur argent ou flippent de le perdre. Tellement taf de merde, fais semblant de le faire. Combien de jobs servent juste à satisfaire nos chefs? Nourris au jugement, nourris aux clichés. Alors qu'on sait même pas se nourrir, on se bousille. On sait pas gérer nos émotions donc on les cache. Sait pas gérer nos relations donc on les gâche. Assume pas ce qu'on est donc on est lâche. On se pardonne jamais dans un monde où rien s'efface. On se crache les uns sur les autres, on sait pas vivre ensemble. On se bat pour être à l'avant dans un avion qui va droit vers le crash.